Vous écoutez Secrets d'Histoire, Aliénor d'Aquitaine, une rebelle au Moyen-Âge. Troisième partie.
C'est précisément au château royal de Chinon que se déroule ce conflit familial tragique. Cette forteresse majestueuse de 500 mètres de long qui domine la Vienne occupe une position stratégique pour l'Empire Plantagenet. Au XIIe siècle, Chinon est une base d'opération militaire cruciale pour Henri II à l'intersection de ses principaux domaines, la Touraine, l'Anjou et le Poitou. C'est également à Chinon qu'Henri II conserve le trésor royal. Il ne faut surtout pas imaginer un amoncellement de pièces d'or ni de pierres précieuses. À l'époque, le trésor royal est essentiellement constitué de parchemins, des papiers qui attestent des fiefs, autrement dit, de l'ensemble des territoires qui composent l'Empire Plantagenet, un empire que le roi Henri ne partage pas, pas même avec ses fils. Pour Aliénor, il est devenu évident que son mari n'est plus capable de diriger l'empire qu'ils ont créé ensemble. Il doit céder le trône d'Angleterre au profit de leur fils aîné, Henri le Jeune. Depuis Chinon, elle orchestre alors un coup d'état magistral, mais sans imaginer une seconde que la forteresse royale puisse se refermer sur elle.
Hiver 1174, Henri II, fou de rage, fait arrêter son épouse Aliénor d'Aquitaine pour trahison et l'enferme à Chinon. L'issue d'une guerre acharnée entre le roi et la reine qui a commencé 4 ans plus tôt.
Aliénor a bien compris qu'Henri n'est plus le même homme, qu'il n'est plus en même de gouverner.
Mireille Calmel, romancière historique.
Or, ses fils ont grandi, ils sont tout à fait aptes, l'aîné en particulier, à reprendre ce trône.
Elle a devant elle Henri, Richard et Geoffroy, et elle leur dit « on fait un coup d'État contre papa ». Et les fils le font avec leur mère.
Un coup d'État pour en finir avec la dictature qu'exerce leur père sur l'Empire Plantagenet depuis 19 ans maintenant, sans leur laisser le moindre pouvoir.
Henri, à ses enfants, il pourrait leur distribuer tel duché, telle province, etc. Rien, pas du tout. D'ailleurs, on sait, Jean s'appellera, comme on le sait, Jean sans terre.
Il a fait couronner son fils aîné 2 fois.
Henri le Jeune, qui a une 15aine d'années, on lui donne simplement une couronne, mais aucun pouvoir, aucun moyen de décision, aucune armée, ni quoi que ce soit.
Évidemment, il ne va pas le supporter, ça. C'est une chose qui le mettra fort en colère.
D'autant que de l'autre côté de la Manche, son frère Richard a reçu de leur mère, Aliénor, un immense territoire qu'il gouverne, l'Aquitaine.
Richard, c'est, comment dirais-je, c'est le fils à maman.
Il y a entre les deux une relation privilégiée. Richard Cœur de Lion est très proche de sa mère, il va grandir à Poitiers. Elle va l'emmener avec elle visiter les terres d'Aquitaine.
Il est peut-être plus français qu'anglais.
Tout prédispose donc Richard à devenir le duc d'Aquitaine, comme Aliénor elle-même.
Henri le Jeune, resté en Angleterre auprès d'un père de plus en plus tyrannique et avec une couronne factice, décide de réagir, bientôt soutenu par sa mère et ses frères.
Henri va réclamer le trône d'Angleterre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il se réfugie à la cour de France et demande l'appui de Louis VII pour récupérer le trône d'Angleterre contre son père. Les 3 frères sont ligués.
Ils vont prendre comme alliés Louis VII, qui était donc le premier mari d'Aliénor.
Henri ne peut supporter cet affront, d'autant qu'il rend Aliénor responsable de cette coalition. Il entre en guerre ouverte avec ses fils.
La rébellion est écrasée par Henri II, qui bat ses fils à plate couture. Donc la principale victime de cette affaire, ça va être cette malheureuse Aliénor.
Elle perd Aliénor. Il l'enferme ensuite en résidence surveillée, mais parce qu'elle a perdu son coup d'État contre son propre mari.
Henri II fait la paix avec ses fils, mais pas avec sa femme. Après l'avoir emprisonnée 6 mois à Chinon, il l'assigne maintenant à résidence à Salisbury en Angleterre. Aliénor a 52 ans.
9 années durant, Aliénor va rester prisonnière. Henri est intraitable. Non seulement il interdit toute visite à Aliénor, mais il interdit la musique, il lui interdit le vin, il lui interdit les épices, il lui interdit tout ce qu'elle aime.
Il y a eu un adoucissement de sa captivité.
Martin Aurel, historien.
En 1183, à la mort de son fils, Henri le Jeune, qui, sur son lit de mort, aurait demandé que les conditions de détention de sa mère soient moins dures.
Elle est libérée provisoirement, je dirais, pendant quelques mois. Elle vient sur le continent à Chinon. Et puis, son mari se dit que finalement, c'est peut-être un peu dangereux de la laisser se promener comme ça. Donc, il la reprend en main et il l'enferme à nouveau dans un château à Winchester, en Angleterre, où elle restera cette fois-ci jusqu'à la mort d'Henri II en 1189.
En apprenant la nouvelle de la mort de son mari, Aliénor d'Aquitaine a explosé de joie.
Elle sort de captivité pendant laquelle elle n'a jamais baissé les bras. Elle a acquis une sagesse étonnante. Au lieu d'être éteinte, elle n'en a pris que plus d'éclat. Et donc là, c'est le moment de la revanche.
Une revanche en forme de victoire. Non seulement après 15 ans d'enfermement, elle est enfin libre, mais c'est Richard, son fils préféré, qui monte maintenant sur le trône d'Angleterre. Son couronnement à l'abbaye de Westminster est aussi fastueux que celui d'Aliénor, 40 ans plus tôt.
Pour Aliénor, c'est un bonheur immense d'assister au couronnement de Richard.
Professeur Lindy Grant, historienne.
D'être là, de voir son fils devenir roi, c'est extraordinaire pour elle. Elle a dû prendre conscience qu'une nouvelle vie s'offrait à elle, qu'elle pourrait enfin agir en tant que reine-mère.
Richard Cœur de Lion est un bel homme, c'est incontestable. Il présente bien, il a, faut dire qu'il a des parents très élégants et bien faits de leur personne.
La chevelure flamboyante, la barbe rousse, il a les yeux de sa mère, le port de sa mère, et il a surtout la finesse de sa mère.
Richard Cœur de Lion est aussi un personnage de son temps, à la fois quelqu'un de très généreux et en même temps de très cruel, de très violent.
On a commencé à surnommer Richard Cœur de Lion après son combat avec son père.
Symbole de courage et d'intrépidité, de vaillance au combat, comme un lion peut être le plus vaillant des animaux.
Richard est un garçon sur le plan militaire, extrêmement doué, un guerrier hors pair.
Une bravoure que Richard s'empresse de prouver.
Il est à peine couronné roi d'Angleterre que, hop là, ni une ni deux, il part en croisade.
C'est assez extraordinaire. Au lieu de s'occuper de son état, il part pour la Terre Sainte, pour gagner son paradis, hein, ce qui est important pour un homme du Moyen-Âge.
Il faut dire qu'en Orient, les musulmans, cette fois, se sont emparés de Jérusalem. Richard s'allie alors avec l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse et le nouveau roi de France Philippe Auguste pour mener une troisième croisade. Nommée régente du royaume, Aliénor tremble de voir partir ce fils qui, à 33 ans, n'a pas encore donné d'héritier à l'Empire Plantagenet. Elle décide donc d'agir.
Pour consolider l'Aquitaine menacée aux frontières par l'absence de Richard, il faut impérativement que Aliénor trouve des alliés puissants.
Aliénor prend son cheval et elle va chercher, du côté de la Navarre, une épouse pour son fils.
Philippe Delorme, historien.
Il faut voir quand même qu'elle a pratiquement 70 ans, donc traverse les Pyrénées, elle va chercher Bérangère de Navarre, donc qui va épouser Richard Cœur de Lion, et immédiatement ils repartent et retraversent la France, l'Italie, pour aller en Sicile, où elle livre en quelque sorte la marchandise à son fils, qui va donc épouser Bérangère de Navarre et partir en croisade.
Richard, s'il accepte ce mariage, ne semble pas très préoccupé par sa nouvelle épouse.
Au niveau de ses penchants sexuels, on ne sait pas bien s'il n'est pas plutôt attiré par les hommes que par les femmes.
On sait que lors de la croisade qu'il fait en commun avec le roi de France, Philippe Auguste, on les a trouvés assez régulièrement couchés ensemble. Ils dormaient ensemble, ça ne veut pas dire... Bon, mais ils étaient vraiment très chaudement noués l'un et l'autre.
On a beaucoup parlé de l'homosexualité de Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. En réalité, non. La gestuelle au Moyen-Âge est très tactile. C'est très sensuel. On embrasse sur la bouche pour un baiser de paix. On couche, au sens où on dort dans le même lit, sans aucun problème. Deux hommes dorment côte à côte, et ça ne veut pas dire qu'ils sont homosexuels. Ça se faisait, c'était absolument commun.
Avec son compagnon d'armes, Richard prend la tête d'une armée colossale pour libérer la ville sainte.
Richard réussit à conquérir, avec Philippe Auguste, la ville d'Acre, un port extrêmement important. Ils ont la supériorité des mers. Il remporte plusieurs victoires qui lui permettent de conquérir les principales villes portuaires du littoral palestinien.
Richard, là-dessus, a acquis une renommée extraordinaire.
Mais aux portes de Jérusalem, le cœur de lion doit se rendre à l'évidence. Il n'a plus assez d'hommes pour envahir la ville. Le roi de France a quitté prématurément les croisades avec son armée. Richard est obligé de signer un compromis avec Saladin, le chef des musulmans.
Il a gardé les territoires frontaliers et Saladin, la ville sainte.
Après 2 ans en Orient, Richard rentre au plus vite vers l'Angleterre, où Aliénor attend impatiemment son retour. Malheureusement, il lui faudra encore attendre 2 ans avant de revoir son fils.
Sur le chemin du retour, il est capturé par le duc Léopold d'Autriche, à qui il a fait affront pendant la croisade.
Léopold d'Autriche qui ne consentira à le libérer que contre rançon.
Une rançon absolument considérable, 2 années de revenus de la cour d'Angleterre, pratiquement.
Aliénor accumule la somme pharaonique de 34 000 kilos d'argent pur pour délivrer son fils.
Aliénor est prête à tout pour libérer son fils retenu en Allemagne et fait savoir en haut lieu combien elle est furieuse.
C'est là où elle signera tous ses documents, avec cette expression que je trouve très belle, Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre par la colère de Dieu.
Elle adresse ses lettres à qui ? Au pape Célestin III. Vous vous rendez compte, c'est presque blasphématoire.
Et elle va porter elle-même, cette femme de 75 ans, qui est une force de la nature tout de même, hein, qui est une puissance, elle va porter elle-même cette rançon pour pouvoir faire libérer son fils et le couvrir de baisers.
Le 12 mars 1194, c'est un héros de retour des croisades qui rentre en Angleterre aux côtés de sa mère. Le cœur de lion devient un roi légendaire, dont l'effigie trône toujours devant le Parlement de Grande-Bretagne, au cœur de Londres. En son absence pourtant, il a bien failli perdre sa couronne.
Qui va à la chasse perd sa place, comme on dit, et pendant l'absence de Richard, son dernier frère survivant, Jean Santerre, va essayer de devenir roi à la place du roi.
Jean Santerre se retrouve avec des terres, puisqu'il dit « Mon frère est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu, eh bien, c'est moi qui vais maintenant veiller sur ses terres, notamment sur sa belle Normandie. »
Michel de Decker, historien.
Et Philippe Auguste en profite pour traiter avec Jean Santerre et commencer de récupérer quelques places fortes sur le territoire normand.
Pour contrer l'appétit de conquête du roi de France, en 1197, Richard fait bâtir une forteresse imprenable au cœur du Vexin normand. Château Gaillard. À 100 mètres de hauteur, les ruines de son donjon, autrefois majestueux, veillent toujours sur une des plus belles boucles de Seine.
Alors c'est une idée de génie parce qu'on est sur la frontière même entre la France et la Normandie, c'est-à-dire l'Angleterre. Et comme cette Normandie est menacée par les armées de Philippe Auguste, Richard se dit halte là, je vais construire ici le dernier verrou qui protégera ma province. Pour construire ce château, il s'inspire de son séjour en Orient et de son voyage, notamment pas très loin de Damas, le célèbre krach des chevaliers. Alors, ce qui différencie des châteaux traditionnels, c'est que le donjon n'est pas rond, mais il est festonné. C'est une particularité qui permet d'observation beaucoup plus aisée que dans le donjon tout simplement arrondi. Il a fallu, imaginez-vous, à peine plus d'un an à quelque chose comme 6000 ouvriers pour construire ce merveilleux château. La construction est décidée en 1197. Quand Richard arrive ici un an plus tard, il tombe sous le charme. Alors il a ce cri énorme, il dit « Mais quelle est belle ma fille d'un an, c'est un château gaillard !»
Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste s'affrontent désormais sans relâche. Et la Normandie n'est pas le seul duché de l'Empire Plantagenet à être en danger. L'Aquitaine l'est aussi.
Richard vient en 199 au château de Chalut pour punir son vassal, qui est propriétaire de ce château, Adhémar V, le vicomte de Limoges.
Yves Aubard, romancier historique.
Le vicomte de Limoges a comploté contre lui avec le roi de France pour prendre les terres limousines de Richard. Il y a peu de gens dans ce château. 38 personnes, on estime, deux chevaliers, simplement, qui défendent la place. Et Richard est arrivé avec ses mercenaires. On estime qu'ils sont à peu près un millier d'hommes. Et ils vont assiéger, donc, en très grand surnombre, 38 personnes. Richard arrive carrément au pied de cette tour, dit-on, pour défier les deux seigneurs qui sont à l'intérieur du château, sans armure, avec un casque, simplement. Pierre Basile décoche un trait d'arbalète. Va atteindre Richard à son épaule gauche. On dit qu'il s'arrache lui-même cette flèche, mais qu'il casse le bois de la flèche et que le fer du carreau d'arbalète va rester dans son épaule. Il va être soigné par un barbier. Il n'y a pas encore de chirurgien dans les armées de l'époque et ce barbier n'a pas de connaissances médicales très précises et il va avoir beaucoup de mal à extraire la flèche de l'épaule de Richard. On dit qu'il a charcuté, entre guillemets, Richard Cœur de Lion, aggravé la blessure. Il est probablement à l'origine de la gangrène qui va s'en suivre.
L'agonie de Richard va durer 11 jours, durant lesquels il fait prévenir sa mère, qui se repose à Fontevraud.
Aliénor, qui décidément est toujours, même peut-être mentalement, en relation avec son fils, se précipite à Chalut et va réussir à le prendre une dernière fois dans ses bras. Son fils chéri agonisant va mourir quasiment dans les bras de maman.
À Fontevraud, Aliénor réunit dans la mort ceux qu'elle a aimés. Son époux, Henri II, est mort à 56 ans au château de Chinon, le 6 juillet 1189. Et plutôt que Le Mans, elle choisit Fontevraud plus proche pour le faire inhumer. 10 ans plus tard, le 6 avril 1199, c'est Richard Cœur de Lion, son fils, mort à 42 ans, qu'elle fait reposer aux côtés de son père. Avant de les rejoindre ici à son tour en 1204, Aliénor partage son temps entre Poitiers et Fontevraud. Richard mort, le trône d'Angleterre n'a plus que Jean sans terre pour lui succéder. C'est un jeune homme instable, cruel et, on l'a vu, avide de pouvoir. Jean n'a d'ailleurs pas hésité à faire assassiner son neveu pour être sûr de ceindre la couronne d'Angleterre. Mais pour que l'Empire Plantagenet perdure, à bientôt 80 ans, vous allez voir qu'Aliénor est prête à tout, même à soutenir son dernier fils.
À Poitiers, Aliénor redevient pleinement duchesse d'Aquitaine. Il y a plus d'un siècle, ses ancêtres ont bâti un palais, trop petit à son goût. Pour célébrer sa puissance, Aliénor y ajoute une salle monumentale sur le modèle du hall de Westminster Palace qu'elle a fait rénover à Londres 40 ans plus tôt.
Nous avons 47 mètres de longueur par 17 mètres de largeur. Ça veut dire que toute l'aristocratie du Poitou et peut-être même de l'Aquitaine pouvait tenir dans cette salle. Aliénor a vraisemblablement commandité les thèmes décoratifs de cette salle, ces arcatures aveugles avec ses têtes dans les modillons, ces têtes qui ont une dimension grotesque, burlesque. Certains d'entre eux portent des couronnes comme si c'était une autodérision du roi. Elle tenait donc à ce que la vie soit animée avec des troubadours, des jongleurs. C'est un des premiers lieux où la légende de Tristan et Iseult sont mentionnées.
Dans ce qui est devenu aujourd'hui le palais de justice de Poitiers, Aliénor gouverne et travaille à promouvoir son duché, qu'elle sillonne en permanence malgré son grand âge. Après le vin de Bordeaux, elle s'attelle donc aussi à faire connaître les mailles de Limoges.
Aliénor a très vite compris l'intérêt économique de la ville d'avoir un artisanat d'art. Donc elle a œuvré pour le développement en Europe, dans toute la chrétienté, d'objets produits à Limoges. D'ailleurs, très vite, on parle d'œuvres de Limoges, du vivant même d'Aliénor.
Alain-Charles Dionnet, conservateur au Musée des Beaux-Arts de Limoges.
L'attrait pour Aliénor de l'émail est d'avoir une parure chatoyante autour d'elle. L'émail embellit l'univers quotidien. Et puis par ailleurs, le cuivre doré, évidemment, coûte moins cher que l'or pur ou l'argent. Et donc, pour un effet à peu près identique, l'engagement dans le trésor ducal est beaucoup moindre.
Elle pense toujours à l'avenir de son héritage paternel et de l'héritage de son mari. Et c'est toujours, je dirais, la conscience active de la famille. On a l'impression que cette femme, tout au long de sa vie, va être le seul personnage un peu raisonnable au milieu d'une bande d'hommes assez farfelus qui vont s'agiter autour d'elle.
En tête, son dernier fils, Jean. Devenu roi, il ne parvient pas à conserver l'intégralité des terres de l'Empire Plantagenet.
C'est un roi catastrophique, détestable. Il n'avait pas de talent.
Jean Santerre n'est pas un personnage reluisant.
Jean a tout échoué, enfin, il n'a rien réussi de bon.
Le malheur d'Aliénor, c'est qu'il n'a plus que lui pour perpétuer sa dynastie.
Il faut dire qu'à peine un an après son avènement au trône, Jean se fait ravir la ville d'Évreux et le comté du Berry par le roi de France, Philippe Auguste. Une bataille à l'issue de laquelle les deux souverains finissent par signer un traité de paix.
Comme toujours dans ces alliances, si on veut qu'elles soient solides et qu'elles tiennent, il faut qu'elles soient entérinées par un mariage.
Comprenant que Jean morcellera le royaume, détruira peu à peu tout ce qu'elle a bâti, Aliénor va chercher sa petite fille pour aller la marier au fils de Philippe Auguste.
Imaginez-vous cette femme de 80 ans qui traverse les Pyrénées jusqu'à Burgos, presque 1500 kilomètres. C'est ahurissant. Ça témoigne de la volonté de faire de cette femme qui prend à main les affaires de son fils Jean Santerre.
Elle ne délègue rien. Elle est insatiable et infatigable.
À la cour de Castille, Aliénor rencontre pour la première fois ses petites filles. Elle doit maintenant choisir laquelle est digne de devenir reine de France.
Il y en a une qui s'appelle Urraca, mais ça veut dire la pie. Et quand elle entend ces noms, elle dit « j'en veux surtout pas ». En revanche, il y en a une autre qui s'appelle Blanche, Blanca. C'est beaucoup plus beau, ça passe beaucoup mieux.
Elle a dû discuter avec les deux fillettes et s'est rendue compte que Blanche était sans doute plus éveillée, plus intelligente, qu'elle correspondait sans doute mieux au rôle d'une future reine de France, et donc elle a choisi Blanche.
Blanche de Castille sera la mère de Saint-Louis, et à son tour une grande reine de l'histoire. Une immense revanche pour Aliénor d'Aquitaine, qui rêve d'unir la France à l'Angleterre.
En mariant Blanche de Castille à Louis VIII, elle remet du sang des Plantagenets à la cour de France.
Aliénor d'Aquitaine n'a pas pu, je dirais, donner un héritier direct au royaume de France, mais elle a été quand même une des grandes ancêtres des rois de France. Elle a tenu à bout de bras le rêve plantagenet jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle.
Après cet ultime succès politique d'envergure, à 81 ans, Aliénor se retire enfin à l'abbaye de Fontevraud.
Elle aspire maintenant à la tranquillité et à une fin de vie paisible.
Avec l'âge, on cherche de la transcendance, on cherche à se rapprocher de Dieu. Dans la société médiévale, elle se prépare à bien mourir.
Étant donné le caractère d'Aliénor, on peut penser qu'elle n'y restait pas en prière en permanence et qu'elle devait faire des allers-retours entre Poitiers et Fontevraud.
À Poitiers comme à Fontevraud, les journées d'Aliénor oscillent entre décisions politiques et prières. Une dévotion qu'elle tourne vers une sainte au destin étrangement similaire au sien.
Chaque fois qu'Aliénor vient à Poitiers, elle se recueille devant les reliques de Sandra de Gonde. C'est une reine comme elle, et une reine avec une très forte personnalité qui s'est battue contre son mari, Clotaire. Autre caractéristique qui les rapproche, Radegonde a été longtemps captive, tout comme Aliénor.
Cette sainte du VIe siècle est capturée à l'âge de 12 ans par son mari. Après 20 ans d'enfermement, elle s'enfuit et fonde un monastère à Poitiers.
Aliénor, comme toutes les femmes de l'aristocratie, était vraisemblablement pieuse. L'était-elle profondément? Ça nous dépasse, nous ne le saurons jamais.
Aliénor s'éteint à Poitiers, le 30 mars ou le 1er avril 1204, à 82 ans. Trois semaines plus tôt, elle avait appris la chute de Château-Gaillard. La forteresse normande dont Richard Cœur de Lion était si fier est tombée aux mains du roi de France.
Les excès de Jean ont conduit peu à peu à la dissolution de l'Empire Plantagenet.
Heureusement pour Aliénor, elle ne verra pas les troupes de Philippe Auguste entrer à Poitiers, puisqu'ils n'entreront qu'au mois d'août. Ça lui sera épargné. Elle ne verra pas la fin, je dirais, de son grand rêve d'union entre la France et l'Angleterre.
Évidemment, il y a eu des rois de la lignée des Plantagenets jusqu'à Richard III. Mais la suprématie imposée par Aliénor sur l'Europe n'a plus jamais été la même.
Elle est la grand-mère de tous les rois d'Angleterre et de toutes les reines d'Angleterre depuis son époque, aussi bien les Plantagenets, mais ensuite les Tudor, les Stuart, aujourd'hui les Windsor, sont des héritiers, sont des descendants de cette reine qui, en quelque sorte, est un petit peu la grand-mère de toute l'Europe, puisque aussi bien en France, en Angleterre que dans toutes les autres monarchies, on a le sang d'Aliénor dans les veines.
Michael Isben aussi a du sang d'Aliénor dans les veines. Ce Canadien installé près de Londres est ébéniste. En 2004, sa vie a basculé dans le Moyen-Âge.
Ma mère a été contactée par un historien anglais et il lui a dit qu'elle descendait de la famille de Richard III. Il voulait un prélèvement ADN pour le comparer avec les restes de Margaret d'York, une des sœurs de Richard. Ça a été un choc pour toute la famille et on a choisi de garder le secret et de n'en parler à personne.
Le secret, c'est que les tests sont positifs. Michael et sa famille descendent bien de la sœur de Richard III. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2012, des archéologues découvrent des ossements sous un parking. Nous sommes à Leicester, là où Richard III, le dernier roi de la dynastie Plantagenet, aurait été inhumé en 1485. Pour authentifier le squelette, cette fois, c'est Michael qui donne son ADN.
Les tests ADN ont pris 4 mois. Et la veille de l'annonce officielle des résultats, en février 2012, on m'a dit « l'ADN correspond ».
Mesdames et messieurs, les conclusions de l'Université de Leicester ne font aucun doute. Les ossements retrouvés à Greyfriars en septembre 2012 sont bien ceux de Richard III, le dernier roi plantagenet d'Angleterre.
C'est fou! Le jour où l'on a annoncé au public que c'était bien la dépouille de Richard qu'on avait trouvée, on m'a emmené voir ses restes. Être là, devant Richard III, réaliser que vous êtes liés l'un à l'autre, c'était un moment très fort et je crois que jamais je ne l'oublierai.
17 générations séparent Michael de cet aïeul un peu spécial qu'il ne connaît que grâce à la pièce de William Shakespeare intitulée Richard III.
Je dois vous avouer que je ne connaissais pas grand-chose des Plantagenets. Ce n'est que récemment que je me suis penché sur leur histoire. Et ça m'a épaté de voir à quel point ils étaient puissants et importants dans l'histoire de ce pays.
Une puissance toujours respectée. Le 26 mars 2015, en présence de membres de la famille royale d'Angleterre, le descendant catholique d'Aliénor d'Aquitaine était inhumé en grande pompe par l'église anglicane. 530 ans après sa mort, les restes de Richard III reposent désormais en la cathédrale de Leicester, dans un cercueil fait par Michael, son lointain neveu ébéniste.
Richard III, le dernier des Plantagenets, aurait sans doute pu être inhumé à Fontevraud. Si Jean sans terre n'avait ruiné le rêve de sa mère, Aliénor d'Aquitaine, et su préserver l'empire qu'elle avait fondé avec Henri II. Aliénor d'Aquitaine, qui sa vie durant a traversé l'Europe de part en part, a choisi cet endroit entre tous pour reposer en paix. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir l'incroyable destin de cette reine qui a marqué le Moyen-Âge par son courage et sa détermination à préserver avec éclat ses terres et sa lignée. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vanessa Pontet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.